Chers frères et sœurs, je vous salue. Nous sommes aujourd'hui le 25 février 2022 et nous sommes au deuxième jour de l'offensive russe, l'offensive militaire russe en Ukraine. Et nous allons, comme d'habitude, poursuivre notre étude hebdomadaire du premier livre de Samuel. Nous sommes au chapitre 5. Que l'Éternel Dieu nous bénisse et nous garde. Donc nous allons étudier aujourd'hui 1 Samuel 5 du verset 1 au verset 12. Et comme d'habitude, nous prions que l'Éternel Dieu nous accorde sa grâce, que l'Esprit Saint nous inspire afin que tout ce qui sortira de moi soit esprit et vie, et que vous qui m'écoutez, qui prenez votre temps, précieux temps pour m'écouter, que l'Éternel, notre Dieu, vous parle au-delà de cet enseignement ou bien de cette étude, que l'Esprit Saint lui-même interprète mes paroles afin que vous soyez édifiés et fortifiés, parce que sans lui, nous ne pourrons pas enseigner, nous ne pourrons rien faire, et la parole, que le discours ou l'enseignement que je ferai ne serait que verbiage et parole creuse. Amen et amen. Soyez bénis et fortifiés de par le monde entier, même si nous ne nous connaissons pas visuellement, en tout cas pour certains, nous nous connaissons devant le trône de Dieu, de l'Éternel notre Dieu. Soyez bénis et fortifiés. Amen et amen. Je voudrais revenir d'abord sur les événements en cours. C'est vrai, nous sommes en tout cas, il y a une guerre en Europe actuellement. Pas en Europe, mais bon, ah oui, en Europe et en Ukraine en particulier. Et nous sommes au deuxième jour de l'offensive russe en Ukraine. Et les combats sont acharnés selon les informations qui nous parviennent. Et je rappelle que nous sommes toujours en crise sanitaire, toujours, même si les bruits de guerre ont effacé un peu l'actualité Covid. Peut-être que c'est voulu que les bruits de guerre ont effacé, mais nous sommes toujours en pandémie et les mesures sanitaires sont toujours en cours ici en France, même si quelques-unes ont été levées. Voilà. Donc, je dis tout cela pour que ceux qui nous écouteront, m'écouteront dans quelques années, puissent se situer la période dans laquelle cette étude est faite. Oh, soyez bénis et fortifiés, je le répète encore, et que Dieu guérisse ceux qui sont malades, et ceux qui souffrent, que leur souffrance soit atténuée, et ceux qui sont persécutés, que leurs persécuteurs se convertissent et que eux-mêmes soient édifiés, fortifiés à travers ces épreuves. Que ceux qui ne sont pas convertis ou bien n'ont aucune relation avec le Seigneur Yeshua se convertissent, se repentent et reçoivent Yeshua comme leur Messie. Je remercie infiniment tous ceux qui me font des retours sur les enseignements, que l'Éternel Dieu les bénisse. C'est pas mon enseignement, en tout cas, c'est ce que je reçois simplement en méditant la parole de Dieu. Et je dis souvent, et je le répète encore, ce que je dis là n'est que le 10 000e, je ne sais pas, ou bien le 1 000 000e de ce que de l'enseignement ou bien des ressources et des perles que contiennent donc ce chapitre. Je rappelle que le livre de Samuel est prophétique. Mais avant d'aller plus loin, puisque actualité oblige, et beaucoup de gens avec cette guerre parlent, beaucoup ont commencé à parler sur les réseaux sociaux, sur YouTube. On parle de Gog et Magog. C'est vrai qu'il y a les milieux juifs qui en parlent, avec Ézéchiel 38 à l'appui. Mais également, bon, moi, ce qui me gêne dans l'Apocalypse de Jean, dans la révélation de Jean, il est aussi parlé de Gog et de Magog à la fin du millénium. Voilà, donc, peut-être qu'il y a deux guerres de Gog et Magog. En tout cas, Gog veut dire c'est nation et nation, ou bien Nations Unies. Nations Unies, guimel, guimel, goy, goy. Donc, Nations Unies. On veut un ensemble de nations ou de peuples, peuples hétéroclites, ou bien multi-ethniques. Voilà, une association des Nations Unies, voilà. Ça veut dire que c'est un ensemble de populations donc, qui va attaquer. Donc, et au niveau de l'Apocalypse, ça se comprend puisque c'est à la fin du millénaire des nations sous la houlette de Satan vont se rebeller et vont vouloir détruire le royaume messianique. C'est ça. Mais la guerre de Gog et de Magog dont on parle, dont les milieux juifs parlent, c'est surtout que cette guerre peut déborder et peut entraîner une guerre en Israël. C'est-à-dire que la Russie, en tout cas, est désignée comme ça, même si tous les rabbins ne sont pas d'accord. Hein. Certains rabbins pensent que Gog, c'est l'Amérique plutôt, et que c'est pas la Russie. D'autres disent que c'est la Russie, donc c'est pas tellement clair. Donc je voudrais simplement rassurer les frères et sœurs et que la Bible nous parle de guerre et de bruit de guerre que nous aurons, mais que ce ne sera que le commencement des douleurs. Voilà, c'est le commencement des douleurs, simplement. Et nous devons redoubler de sainteté, de sanctification et surtout de repentance et demander à l'Éternel Dieu de nous guider dans ces périodes troubles. Et ne pas avoir peur, parce que Yeshua dit, il faut que ces choses arrivent. Voilà, c'est les douleurs de l'enfantement messianique. Et je dis que nous sommes plus proches de l'enlèvement qu'il y a quelques mois, quelques jours. Hein? Voilà, donc nous sommes plus proches de l'enlèvement. Donc nous devons tous redoubler de sanctification. C'est ce que le livre de la Révélation nous dit, que celui qui se sanctifie encore. Voilà, mes frères et sœurs, ce que je voudrais dire. Et puis, deuxième chose, je voudrais également dire, parce que dans une étude, dans un enseignement récent sur 2 Chroniques 15, nous avons vu dans le verset 6 que la Bible nous dit que c'est l'Éternel agitait. Il a dit qu'on se battait ville contre ville, peuple contre peuple, et que l'Éternel agitait les peuples par toutes sortes d'angoisses ou de calamités, ou bien toutes sortes de fléaux de tout genre. Et ce qui se passe actuellement, c'est sous le contrôle de l'Éternel, notre Dieu. C'est lui qui a amené la Russie à attaquer l'Ukraine et qui amène aussi les Occidentaux. Tout ce qui se passe là, donc c'est l'Éternel Dieu qui bouge les choses, qui est à l'origine, qui contrôle toutes choses. Il est souverain, je le répète toujours, que l'Éternel Dieu est souverain. Il a le contrôle de son monde et rien ne peut se faire sans lui. C'est ça, nous devons comprendre. Donc c'est à lui que nous devons nous adresser. Hein, c'est à lui que nous devons. C'est lui qui agite le monde entier par toutes sortes d'angoisses. Au moment où je parle avec cette guerre, il y a une augmentation des prix. La guerre, l'épidémie et la crise économique, oui, c'est la crise, la famine donc qui va aussi s'installer. Donc nous voyons déjà les signes de la fin des temps. Et ce verset 6 commençait par en ces temps-là. Quand la Bible commence par en ces temps-là, nous devons savoir que ce verset est en rapport avec la fin des temps. Et c'est pour cela que je fais correspondre ce verset avec les événements que nous vivons aujourd'hui. Donc, il y a l'épidémie, la guerre et la crise économique, la famine. D'accord? Nous voyons également quel certain cavalier de l'Apocalypse, puisqu'il va avoir aussi des morts. Des morts. Donc, parmi les quatre cavaliers de l'Apocalypse, c'est ça, il y a la famine, il y a la guerre, il y a les morts. Il y a les morts, il y a aussi la fausse religion. Voilà, je discutais avec un frère aujourd'hui, et puis il a fait une remarque que je trouve intéressante. Au moment où cette guerre se déclenchait, la France votait une loi a été votée en France qui passe le délai légal d'avortement à 14 semaines. Ça va encore compliquer les choses parce que déjà certains médecins ont des problèmes de conscience pour faire cela. Donc il va avoir encore plusieurs médecins qui auront encore des problèmes de conscience parce que c'est quand même grave ce qui se passe dans le monde actuellement. On condamne les innocents qui ne sont pas encore nés et on absout des criminels. Des criminels, des gens peuvent tuer d'autres personnes, peuvent assassiner, peuvent violer, peuvent faire des choses et ils prennent quelques peines de prison, même pas à perpétuité. Et ils ressortent au bout de 3, 4, 5 ans, 10 ans. Mais l'innocent qui n'est même pas encore né, on le condamne déjà à mort avant sa naissance. Hein? D'accord? Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de grave et nous devons prier pour nos pays parce que c'est un assassinat. C'est l'avortement, c'est une tuerie, c'est un assassinat parce que selon la Bible, la vie commence dès la conception. Dès la conception. Et au niveau scientifique, on a remarqué que lorsque le spermatozoïde pénètre dans l'ovule, il y a comme une lumière blanche, une lumière qui se voit au microscope. Une lumière apparaît. C'est ça la vie qui rentre, ou bien c'est ça l'âme qui rentre donc dans ce fœtus-là, dans l'œuf. Voilà, donc la vie commence dès sa conception et dès que la fécondation est faite, c'est fini. L'homme n'a plus rien à faire. L'œuf est autonome à la vie en lui-même et se développe selon une dynamique propre à chaque être humain. Donc voilà ce que j'aimerais dire avant de commencer donc cette étude-là. Donc l'arche de l'Éternel chez les Philistins. La dernière fois dans le verset 4, nous avons vu, dans le chapitre 4, donc nous avons vu comment Israël a perdu la bataille contre les Philistins et que les Philistins donc ont saisi l'arche de l'Éternel et ont infligé donc une grande perte aux Israéliens. Et l'Éternel Dieu a permis cela parce que Israël était en apostasie. Israël n'était pas sanctifié. Israël n'obéissait pas à l'Éternel Dieu. Et l'Éternel Dieu a permis aux païens de vaincre son peuple pour lui apprendre, pour lui donner une leçon, mais également pour également donner une leçon aux Philistins. Aux Philistins. Parce que par sa grâce, comme l'arche de Dieu, je le disais dans cet enseignement, que c'est une grâce pour les Philistins d'avoir saisi. Bon, ils ne l'ont pas saisi, hein. C'est l'Éternel Dieu qui a permis cela. Parce que l'Éternel Dieu est quand même puissant, il est souverain, il peut envoyer ses légions d'anges et en une minute, les Philistins n'existeront plus. Mais il a laissé faire. Il a laissé faire, mais les Philistins, comme c'était des païens, se sont trompés. Ils pensaient que c'est parce que leur divinité était plus forte. Était plus forte. C'est ça. Ils ont pensé à cela. Or, ce n'était pas la vérité. Et la suite va démontrer ce que je suis en train de dire. Que seul l'Éternel a la puissance, seul l'Éternel est Dieu. Seul, oui, il n'y a pas un autre Dieu que l'Éternel. Donc la Bible nous dit, je vais utiliser bon la version pas Oui, la version hébraïque, toujours comme je le fais. Je pense que c'est mieux pour changer un peu, hein, voilà, parce que vous avez tous les versions, lui, second Semer, ou bien le second 21, ou bien Darby, tout ça là. Bon, beaucoup n'ont pas la tradition hébraïque. Les Philistins s'étaient donc emparés de l'arche de l'Éternel, ou bien du Seigneur. Ils la transportaient d'Ébénézer, la pierre de secours, à Ashdod. Ashdod veut dire quoi? Ashdod veut dire. Ashdod veut dire. Ashdod veut dire butin, endroit fortifié, château. Voilà, Ashdod. C'est-à-dire endroit fortifié, château. Voilà, donc ils l'ont transporté là-bas dans leur pays. Il faut préciser que les Philistins étaient gouvernés par cinq princes qui habitaient cinq cités: Ashdod, Ekron, Gath, Ashkelon et Gaza. Ça ne vous dit rien? Gath, c'est la ville de Goliath. Hein. C'est la ville de Goliath. Donc, c'est la ville de Goliath. Ashdod, il prit l'arche du Seigneur. Je vais tout lire d'abord, hein, et puis je vais commenter après. Et la menèrent dans le temple de Dagon et la placèrent à côté de cette idole. Mais le lendemain, lorsque les gens d'Ashdod se levèrent, ils virent Dagon étendu sur la face à terre devant l'arche de l'Éternel. Ils le relevèrent et le remirent à sa place. Le matin du jour suivant, voilà que Dagon gisait encore à terre devant l'arche de l'Éternel, et on voyait sur le seuil sa tête et ses deux mains coupées. Le tronc seul était resté intact. C'est pourquoi les prêtres de Dagon ni aucun de ceux qui entrent dans le temple de ce dieu à Ashdod n'en foulent le seuil aujourd'hui encore. Puis la main de l'Éternel s'appesantit sur les gens d'Ashdod et il sévit contre eux. Il les affligea d'hémorroïdes, tant Ashdod que le territoire voisin. Ce que voyant les gens d'Ashdod dirent: l'arche du Dieu d'Israël ne peut rester au milieu de nous, car il nous fait sentir trop durement sa puissance, à nous et à notre Dieu Dagon. Ils mandèrent alors et convoquèrent chez eux tous les princes des Philistins et leur dirent: que ferons-nous de l'arche du Dieu d'Israël? Ceux-ci répondirent: que l'arche du Dieu d'Israël soit transportée à Gath, dans la ville de Goliath. On l'y transporta, l'arche sainte. Mais après sa translation, la main de l'Éternel sévit sur la ville, y produisant un très grand trouble. Il en frappa tous les habitants, du plus petit au plus grand, par une éruption secrète d'hémorroïdes. Il envoyait l'arche divine à Ekron. Mais quand elle y fut arrivée, les habitants jetèrent des cris et dirent: on a transporté chez nous l'arche du Dieu d'Israël pour nous faire périr, nous et les nôtres. Et ils envoyèrent convoquer tous les princes des Philistins et leur dirent: renvoyez l'arche du Dieu d'Israël, qu'elle retourne au lieu de sa résidence et ne nous fasse pas périr, pas mourir, nous et les nôtres. Car un désarroi mortel régnait dans toute la ville. La main de Dieu s'y faisait sentir lourdement. Ceux qui ne mouraient pas étaient atteints d'hémorroïdes et les gémissements de la ville s'élevaient jusqu'aux cieux. C'était dur alors. C'était vraiment dur alors. Donc les Philistins pensaient ajouter la puissance à la puissance, parce que c'est ce qui se faisait à l'époque quand un peuple s'emparait de la divinité du peuple vaincu. Donc il ajoutait la puissance, la divinité du peuple vaincu à ses propres divinités pour créer une synergie de force. Pour créer une synergie de force. Voilà. Pour se renforcer. C'est ça, les Philistins pensaient ça. Pour eux, l'Éternel, le Dieu d'Israël, était comment leur divinité païenne, comment les idoles. Mais ils vont vite déchanter. Ils vont vite déchanter. Donc, et comme ils ont amené l'arche donc à Ekron, qui veut dire Ashdod plutôt, place fortifiée, château, place fortifiée, et ils ont mis donc l'arche de l'Éternel Dieu à côté de Dagon, puisque les Philistins pensent que Dagon est supérieur à l'Éternel Dieu et que c'est Dagon qui leur avait donné la victoire. Selon la littérature, donc, Dagon avait la partie haute, une face d'homme, et la partie basse avec le corps de poisson. De poisson. Hein? Ce poisson. C'est quand même curieux parce que chez les Dogons du Mali, les Dogons du Mali aussi ont des divinités comme ça, des hommes-poissons. Ils disent que c'est les hommes-poissons sont venus leur enseigner des choses mystiques. Hein, même sur l'étoile Sirius, parce que les Dogons connaissent l'étoile Sirius sans avoir de télescope. Donc ils disent que c'est les hommes-poissons qui le leur ont enseigné. Bon, ça c'est une parenthèse de culture générale. Donc cette divinité Dagon donc avait une face d'homme avec une tête d'homme avec un corps de poisson. Voilà. Et ce qui devait arriver arrive parce que l'Éternel Dieu est souverain et dit qu'il ne donnera sa gloire à personne. Donc je disais dans ma précédente étude que c'est une grâce pour les Philistins d'héberger pour quelque temps l'arche de l'Éternel Dieu. Parce que là, ils vont connaître le vrai visage de l'Éternel Dieu. Ils vont, pas le visage, voilà, ils vont connaître la puissance de Dieu. Parce que, et quand ils ont placé l'arche de Dieu, donc de l'Éternel Dieu, le lendemain, bon, l'Éternel Dieu a montré sa puissance, son autorité, sa suprématie par rapport donc à la divinité philistine. Hein, à la divinité philistine. Donc, l'Éternel Dieu donc a mis fin, a démenti par ce qui est arrivé à la divinité des Philistins, a démenti sa prétendue supériorité, sa prétendue puissance dans la bataille, sa prétendue suprématie ou bien sa prétendue divinité qui donne la victoire ou bien qui a donné la victoire sur Israël. Hein? D'accord? Sa prétendue victoire, Dagon, la victoire de Dagon sur le Dieu un, sur le Dieu d'Israël. Et Dagon est tombé face contre terre, comme si il rendait hommage. Il s'est prosterné devant l'Éternel Dieu. Donc pour montrer donc aux Philistins que l'Éternel Dieu est le vrai Dieu, est le seul vrai Dieu. Et nous devons le savoir que dans ce monde, même avec tout ce qui se passe aujourd'hui, ça nous montre que l'Éternel est le seul vrai Dieu. Avec cette pandémie, c'est écrit, hein, c'est écrit, tout ce qui se passe est dans la Bible, hein, est dans les Écritures. L'épidémie, les guerres, les bruits de guerre, la famine qui va arriver, la cherté de la vie qui va arriver, les troubles sociaux, politiques qui vont arriver. Tout cela est écrit, tout cela montre que nous sommes à la fin des temps. Donc, ce qui se passe actuellement démontre la puissance de l'Éternel Dieu, l'autorité de Dieu, que les hommes, l'humanité doit revenir à l'Éternel, doit chercher. C'est ce que l'Éternel Dieu visait ici, visait chez les Philistins. Vous savez que l'Éternel Dieu aime toute sa création, malgré l'idolâtrie des Philistins, malgré tout ce qu'ils ont infligé aux Israélites. L'Éternel, notre Dieu, est encore miséricordieux. Il voulait leur montrer qu'il est le seul vrai Dieu. Si les Philistins s'étaient convertis, ils n'auront plus besoin de faire la guerre aux Israélites. N'est-ce pas? Donc voilà. Donc ici encore, l'Éternel Dieu démontre sa puissance. Même il y a des choses qui se passent dans le monde. Ça montre la puissance de l'Éternel Dieu. Il faut voir l'ordre de la création. Je disais dans une étude précédente sur 2 Chroniques que la pensée précède la réalité. Donc si aujourd'hui les scientifiques avec une formule pour démontrer l'expansion de l'univers ou bien le Big Bang avec l'expansion de l'univers, ils ont inclus la lettre pi, la vitesse, hein, et la surface du cercle, cela veut dire que quelqu'un avait conçu le cercle avant, n'est-ce pas? De même que la vitesse de la lumière, d'accord? Donc, il y a un créateur dans ce monde-là. Et le simple fait que le soleil ne s'est pas réveillé un jour à l'ouest ni au nord prouve l'équilibre de ce monde. Il y a un créateur, c'est lui. Il dit que voilà, les choses seront comme ça. Il a donné un ordre. Et puis, les lois que les gens, les scientifiques étudient, c'est pas eux qui les inventent. Ils les découvrent. Ils découvrent des lois. La loi de la pesanteur, les scientifiques l'ont découvert. C'est pas eux qui l'ont inventé. Vous comprenez ce que je dis? Donc, nous voyons que l'Éternel Dieu existe. Il est le créateur de son. Il est souverain. Il est grand. Il est puissant. C'est l'autorité suprême. Et c'est ce qu'il a été de démontrer donc aux Philistins. Néanmoins, les Philistins ne vont pas comprendre. Oui, les Philistins n'ont pas compris ce qui est arrivé à Dagon. Dagon, dans un premier temps, a été vu prosterné face contre terre devant l'arche de l'Éternel. Et les Philistins ne se sont, les Asdodiens ne se sont pas posés de questions. Ils sont venus, ils ont relevé leur divinité, puisque c'est une statue. Cette divinité ne peut même pas se bouger, ne peut rien faire. Elle a besoin des êtres humains pour le relever, pour la porter. Donc ce n'est plus un dieu, ça. Alors que l'Éternel Dieu n'a pas besoin, comme on va le voir après dans les chapitres précédents, lorsque les Philistins vont laisser l'arche partir. On a vu que l'arche est partie toute seule sur des bœufs qui n'étaient pas guidés. Du tout. L'arche est partie simplement et ne s'était pas renversée. Ça aussi, ça démontre la puissance de l'Éternel Dieu. Voilà. Donc, allons, progressons. Et malgré cela, les Philistins n'ont pas compris. De la même manière, il nous arrive également, nous aussi, des choses dans notre vie que nous ne comprenons pas ou bien auxquelles nous ne faisons pas attention. Je dis à moi-même et à nous tous que il n'y a jamais de hasard dans la vie d'un enfant de Dieu. Et jamais, il n'y a jamais de hasard. Parce que c'est l'Éternel qui contrôle tout ça. Puisque Yeshua nous a dit que même nos cheveux sont comptés. Il n'y a jamais de hasard dans ta vie. Donc, nous devons étudier tout ce qui nous arrive. L'Éternel Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, nous dit la Bible. Ou bien tout ce qui arrive, concours, ou bien tout ce qui... C'est pourquoi tout ce qui arrive au monde actuellement, la pandémie après, la guerre qui vient ici, et la famine qui va, puisque les prix ont flambé, hein, le prix du pain aussi va flamber parce qu'il va avoir pénurie de blé, puisque l'URSS exporte beaucoup de blé, l'Ukraine aussi exporte beaucoup de blé, ainsi de suite. Comprenez, donc c'est ça. Hein? C'est ça. Donc, nous devons être attentifs et nous sanctifier davantage. C'est plus le moment de se disputer, d'accuser, de parler mal des gens. Ça s'appelle les mauvaises langues, le lachonara, comme on dit. Hein, si quelqu'un, ah oui, tu as vu, il a fait ça, il a fait ça. Ah oui, ce pasteur, ce frère, cette sœur, elle est comme ça, elle est comme ça. Non, non, mon frère, ne participe plus à ça, au commérage, à la diffamation, aux mauvaises langues. Ne donnez plus accès au diable. Et les Astodiens n'ont pas compris la leçon. Et l'Éternel Dieu est allé à un degré supérieur, ou bien à élever encore le message. Parce que la deuxième fois, non seulement leur divinité Dagon est tombée face contre terre, mais sa tête a été coupée, de même que ses membres. Il ne restait que le tronc. C'est la mort, ça. La mort. Ça veut dire que la divinité est morte. Mais l'Éternel Dieu l'a décapité parce que les Astodiens n'avaient pas compris le message, n'avaient pas compris le message. Hein? Voilà, c'est un jugement que l'Éternel Dieu a exercé donc contre cette divinité païenne, hein, cette divinité païenne. Un jugement terrible, comme un verset de la Bible le dit, les dieux qui n'ont pas créé le ciel disparaîtront du dessous le ciel. Voilà, disparaîtront. Voilà la sentence. C'est un jugement contre Dagon. Ouais, c'est un jugement contre Dagon et contre autre, les Philistins, contre la suprématie supposée de cette divinité qui n'est qu'une divinité creuse, idole. Idole, c'est vanité des vanités. Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. De la même manière, nous avons vu la puissance de l'Éternel Dieu en Afrique. On a vu en Afrique, dans les pays très, très idolâtres, l'Éternel Dieu est le seul vrai Dieu. Personne ne peut contester cela. Personne ne peut contester. En tout cas, personne. Ça n'existe pas. Il n'y a pas. C'est pourquoi l'apôtre, sous l'inspiration de l'Esprit Saint, a dit que pour lui, il n'y a pas d'idole. Il n'y a que l'Éternel Dieu seul qui est Dieu. Il n'y en a pas. Il n'en connaît pas. Quoi que les gens parlent des idoles, lui n'y croit pas. C'est des tonneaux vides. Ils font beaucoup de bruit, c'est terminé, c'est des tonneaux vides. Ils ne peuvent pas égaler la puissance du Seigneur Yeshua. Seigneur Yeshua. Donc, c'est ça. Et les Astodiens, au lieu de vraiment de se repentir, de revenir, de venir à l'Éternel Dieu, d'abandonner cette divinité, non, ils se sont entêtés. De la même manière, malgré les manifestations, tout ce qui se passe, les gens s'entêtent. Les gens même critiquent l'Éternel Dieu. Ah oui, si Dieu existait, il n'aurait pas eu cette pandémie, il n'aurait pas eu tant de morts, il n'aurait pas eu ça, il n'aurait pas eu ça, il n'aurait pas eu ça, ainsi de suite, voilà, machin. Ah oui, c'est ça. Et s'il n'avait pas eu le diable, il n'aurait pas eu toute la pagaille que nous observons dans le monde entier. Le cynisme des gouvernants, la méchanceté des gouvernants et des présidents. Je rappelle que les royaumes humains ou les pays humains et leurs présidents et gouvernements dans la Bible sont comparés à des bêtes. Des bêtes, pas opposition à l'humain, au roi humain, le vrai qui est Yeshua, le fils de l'homme, le fils d'Adam, le fils de l'humain, c'est ça que cela veut dire, le fils de l'humain, Ben Adam, comparé par opposition, voilà, au royaume humain, au gouvernement, aux présidents, aux rois humains qui sont des bêtes, qui sont comparés à des bêtes, qui obéissent à des instincts, qui sont des bêtes féroces, voilà, qui sont méchants et qui sont dirigés par la puissance du prince de l'air, c'est-à-dire le diable. Donc, malgré tout ce qui se passe dans le monde, vous voyez, les gens regardent à côté, regardent les événements, ne se convertissent pas, alors que c'est l'Éternel Dieu qui agite, agite les peuples, agite les villes par toutes sortes d'angoisses. Aujourd'hui, les gens sont angoissés, les gens sont en désappointés par la crise sanitaire, les mesures prises par les gouvernements, la guerre qui arrive, la hausse des prix, la crise économique, la famine, avec tout ce qui suit, avec tout ce qui va suivre, hein, mes frères et sœurs. Je ne sais pas si vous avez entendu, après l'attaque de l'Ukraine, le président russe a dit qu'ils répliqueront à toute personne qui interférera dans leur action par des moyens conventionnels et non conventionnels. Et ou bien que le monde n'a jamais vu, qui répliqueront. Ah, je disais la dernière fois que il y a un frère qui a prophétisé le feu nucléaire sur l'Europe. Je ne sais pas si c'est maintenant ou si c'est à venir. Et que cette sœur de norvégienne qui a prophétisé en 1968 le feu nucléaire également sur l'Europe. Hein, également, d'accord, c'est des prophéties. Et elle a même dit que elle a même vu, bon, à l'époque en 68, je ne pense pas qu'il y avait des immigrés en Norvège, hein, surtout africains. Elle avait dit, cette sœur, elle a vu des immigrés venir en grand nombre et que les Européens vont se lever contre ces immigrés, qui vont avoir la famine, qui vont avoir l'apostasie. Aujourd'hui, l'Europe s'est beaucoup, beaucoup éloignée de sa culture chrétienne, de la foi chrétienne, de la foi dans la Bible, de la foi en Jésus, en Yeshua. Hein? Or, la nature a horreur du vide. Et l'Europe s'est créée d'autres dieux, d'autres divinités, c'est ça. D'autres divinités. Et quand il n'y a plus Dieu, c'est le diable qui vient et les démons. Or, ces entités ne peuvent qu'inspirer de mauvaises choses, de mauvaises lois et de mauvais comportements. Aujourd'hui, l'immoralité est à son comble. Non, vous ne voyez pas toutes les ordures qu'on nous déverse, même à la télé, les pubs, tout ça. En tout cas, moi, je ne regarde plus. Hein. Je ne regarde plus et je me porte bien. Je me porte bien. Ça ne me manque pas. Regarde pas la télé. Mes frères et sœurs, sachons décider, sachons être fermes dans ce que nous professons. Malgré tout ce qui se passe dans le monde, l'humanité ne va pas se repentir. Il va continuer avec ses divinités, l'argent, le sexe, l'honneur. C'est ça, c'est l'honneur, c'est les nouvelles divinités hein, qu'on a aujourd'hui. La décadence est à son comble, ici en Europe et dans le monde entier. Progressons, progressons. Et après ça, après que la divinité Dagon ait subi le jugement de l'Éternel Dieu, et que ce jugement n'a pas été compris par les Philistins et les Astodiens, maintenant c'est au tour des adorateurs de subir le jugement de Dieu. Je répète, le jugement a commencé par la divinité, pour montrer, puisque c'est l'objet d'adoration des Philistins, l'Éternel Dieu a commencé par lui. Parce que s'il avait commencé par la population ira vers Dagon pour être sauvée. Maintenant, le jugement a concerné d'abord cette divinité. L'Éternel Dieu l'a abattu, l'Éternel Dieu l'a réduit à l'impuissance, l'Éternel Dieu l'a tué carrément, a tué cette divinité, puisque sa tête a été coupée et ses membres coupés, donc démembrés complètement pour montrer sa puissance. Mais oui, l'Éternel Dieu a commencé par le plus difficile. Mais oui. Mais les Asdodiens n'ont pas compris ça. Et maintenant, voilà, maintenant c'est à leur tour. Dieu a jugé leur Dieu, l'Éternel Dieu a jugé leur Dieu, maintenant va juger les adorateurs. Donc on nous dit que la main de l'Éternel donc s'apesantit sur les Asdodiens. Et l'Éternel Dieu donc exerça alors un jugement contre les Philistins. Voilà, contre les Philistins. Et le fait même, comme je le disais, que le jugement ait commencé par Dagon devait montrer aux Asdodiens philistins que leur divinité ne pourra pas les secourir, puisque sa tête a été amputée, de même que ses mains. C'est le signe de l'impuissance de Dagon, ou bien de la divinité païenne. C'est le signe de son impuissance. C'est le signe de son impuissance. Voilà, c'est le signe de son impuissance. L'impuissance de Dagon par rapport à l'Éternel Dieu. On nous dit la main de l'Éternel Dieu s'apesantit et la main de Dagon coupée. Vous voyez, le contraste est saisissant. Mes frères et sœurs, la Bible, nous devons vraiment étudier la Bible, mes frères. Chaque mot compte. Chaque mot de la Bible compte. Rien n'est à négliger, mes frères et sœurs. Lorsque nous étudions, nous méditons la parole de Dieu, il faut s'arrêter sur chaque mot pour comprendre chaque mot, mes frères et sœurs. Tout compte, tout ce que la Bible dit, il n'y a pas de hasard. Notre Dieu, l'Éternel, Elohim, l'Éternel Dieu, Yahvé Elohim, ne fait rien sans rien. L'Esprit de Dieu ne fait jamais de faute, comme dirait Jean-Marc Taubois. Et c'est vrai, il n'y a jamais de faute. La main de l'Éternel s'apesantit, alors que la main de Dagon était coupée. Donc, ça montre l'impuissance de Dagon par rapport à l'Éternel Dieu qui a encore sa main, alors que Dagon n'en a plus. N'en a plus. Ah, voilà. Et lorsque les Asdodiens ont vu que la tête de Dagon s'était abattue sur le seuil de sa maison, de même que ses mains, ses membres, alors une superstition est née de ce jugement. Et les adorateurs refusaient donc de marcher sur le seuil. Vous voyez comment naissent les superstitions. Il y a aussi d'autres superstitions dans le monde entier. Il ne faut pas passer derrière une échelle. Ici en France, il y a cette superstition ici. La superstition du chiffre 13. Peut-être que cette superstition du chiffre 13 nous vient de l'Égypte. Lorsque les premiers nés de Pharaon étaient décédés. Voilà. Malgré que les Asdodiens, que les Philistins avaient parlé de la manière dont l'Éternel Dieu a traité les Égyptiens, eux aussi n'ont pas appris la leçon, puisque l'Éternel Dieu vient de leur montrer sa puissance, d'abord sur leur Dieu. C'est le plus difficile à faire. Mais non, de la même manière, l'Éternel Dieu montre sa puissance. Comme le dit la Bible, la puissance de l'Éternel Dieu se montre, se voit dans la création, ce qui fait que personne ne peut nier cela. Je disais la dernière fois que les peuples primitifs reconnaissent dans toutes les cultures primitives, les peuples reconnaissent un Dieu suprême, un Dieu qui est dans les cieux, qui est au ciel, un Dieu créateur qui est au ciel, avant de se livrer à leur idolâtrie. Mais ici, les Philistins n'ont pas appris la leçon, ils sont têtus. Ils pensent que leur dieu Dagon est supérieur et ils mettent en place des superstitions. De la même manière, il y a beaucoup, beaucoup de superstitions. Ne pas balayer la nuit, ne pas siffler la nuit, ne pas passer derrière une échelle, comme ici, ou bien ne pas se lever du pied gauche, n'est-ce pas? Et aussi des superstitions, toucher le bois ou la tête pour éviter les malheurs. Même il y a des chrétiens aussi, il y a cette expression aussi qui est là. Il y a des fois, ça échappe même de la bouche de certaines personnes, vous voyez? Ou bien se serrer les doigts, croiser les doigts, vous voyez, c'est ça encore une superstition. Alors moi je dis, mais si vous les croisez trop, ils risquent de se briser. Voilà des superstitions aussi qui sont là, hein. Et il y en a d'autres, hein. Reprendre le sel dans sa maison pour chasser les mauvais esprits, ou d'autres encore. Il y a d'autres superstitions comme ça partout dans le monde. Chaque pays en a plein. La main de l'Éternel s'appesantit et la main de Dagon coupée, réduite à l'impuissance. La divinité Dagon est devenue impotente. De la même manière, toutes les divinités de ce monde, toutes les idoles de ce monde ne sont rien devant la puissance de l'Éternel Dieu. Et lorsque les prêtres de Pharaon ont imité Moïse dans les deux premiers miracles, au troisième, je pense que c'est les poux, hein. C'est les poux, oui, c'est ça. Ils n'ont pas pu imiter, ils n'ont pas pu refaire. Imiter Moïse. Alors qu'est-ce qu'ils ont dit au Pharaon? Là, c'est le doigt de Dieu. C'est la main de l'Éternel Dieu. C'est le doigt de l'Éternel Dieu. Et ici encore, ça revient. La main de l'Éternel s'appelle. Le jugement de Dieu maintenant est sur les Astodiens. Il les a frappés d'hémorroïdes. Il mit la désolation. Chamène, désolation. Être épouvanté, stupéfait. Être épouvanté, ou bien effroyable. Hein? Être frappé de terreur. Chamem. C'est ça, chamem. Il les a frappés par ce qui leur est survenu. Des hémorroïdes ou des tumeurs. Certains pensent que c'était une épidémie. La peste bubonique, ça que les gens disent, une épidémie, parce que ça s'est répandu dans toute la population, c'est très contagieux, et ça a tué certaines personnes. Ça s'est répandu dans Ashdod et dans toutes les contrées avoisinantes. Voilà, les hémorroïdes, ah là là, ça doit être, les hémorroïdes, ça font mal, hein. En tout cas, ceux qui l'ont déjà eu, chaud. Ils ne pouvaient même plus s'asseoir. Ils ne pouvaient même plus rester debout. Ils ne peuvent rien faire. C'est des douleurs atroces. Les hémorroïdes, je ne sais pas si à l'époque, on pouvait soigner les hémorroïdes, même si ils apportaient des solutions.
Ça devait être très, très, très douloureux. Très, très, très douloureux.
Alors, en voyant cela, donc, oui, que fait l'homme? Au lieu de se repentir, ils ont dit, ah non, 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 on l'éloigne l'arche. Ils l'ont aussi éloigné pour voir si c'est vraiment l'Éternel. Vous voyez leur incrédulité? Pour voir si c'est vraiment l'Éternel Dieu qui est à l'origine de tout cela. Hein? C'est ça, leur incrédulité. De la même manière, les gens sont encore aussi incrédules aujourd'hui. Ils ne veulent pas croire que c'est l'Éternel Dieu qui les appelle, que les jugements de Dieu sont la manifestation de sa miséricorde. C'est parce que voilà, il a tout fait. Regarde ici, il a tout fait. Il a commencé par l'idole. L'idole, il a abattu. Ça n'a pas impacté la vie des Astodiens. Une idole qui est détruite. Alors, bon, c'est avec une image taillée. Vous voyez, la miséricorde de l'Éternel Dieu qu'il a manifesté. Il a commencé par là. Voilà. De la même manière, il a envoyé ses missionnaires dans le monde. Il a rendu la Bible accessible à tous les peuples aujourd'hui. Vous voyez, l'évangile est allé partout dans le monde entier. Alors, si vous ne croyez pas, si vous ne voulez pas vous repentir, alors le jugement arrive. De la même manière, on le voit dans le livre de Révélation. Malgré que les ulcères vont être sur les gens, les calamités qui vont suivre, les gens ne vont pas se convertir. Ils sont endurcis, ils sont entêtés comme ici. Ils n'ont pas voulu. Au lieu de se repentir au premier jugement sur leur idole qui n'a pas impacté leur vie, mais non. Maintenant que ça impacte leur propre vie, leur santé, maintenant ils disent, ils ne veulent même pas se repentir. On éloigne l'arche de la source de notre malheur. On l'éloigne, on ne se repent pas. On l'éloigne simplement. Donc ils ont éloigné. Et éloigné aussi de leur divinité. Donc ils ont appelé les cinq princes des Philistins qui sont venus et ils ont transporté l'arche donc à Gath, la ville de Gath. C'est la ville de Goliath, l'une des cinq villes royales des Philistins. Ça veut dire pressoir de la vendange. Oh là là, pressoir de la vendange. Ah, ça doit être dur, pressoir de la vendange. Quand on presse le raisin, ça veut dire presser le raisin, c'est forme de jugement également. L'arche est allée à Gath et les mêmes choses se sont répétées. Peut-être que les Philistins se disaient non, la divinité de Gath était plus puissante pour voir. Ils l'ont envoyée pour voir si c'est vraiment l'Éternel qui est à l'origine de leur malheur, de leur problème de santé. Donc dès que l'arche est arrivée à Gath, mais la main de l'Éternel encore fut sur la ville, leur divinité est restée muette, impotente, impuissante. Et les mêmes choses se sont répétées. Le jugement de l'Éternel Dieu s'est encore appesanti, a frappé la ville. A frappé la ville. On l'a aussi vu lorsque Israël avait été déporté et que les gens des nations qui ont été amenés, comme ils ne savaient pas comment servir l'Éternel Dieu l'a exercé son jugement contre eux. Alors, la même chose s'est répétée, éruption d'hémorroïdes ou de furoncles, les plus petits jusqu'au plus grand, du plus petit jusqu'au plus grand. Alors, eux aussi se sont débarrassés donc de l'arche de Dieu, l'ont envoyé à Ekron. Ekron veut dire quoi? Ekron veut dire. Ekron veut dire émigration ou extermination. Extermination. Extermination plutôt. Extermination. Donc voilà. Ils se sont débarrassés encore du problème. Ils ne veulent pas se repentir. De la même manière, les choses qui nous arrivent dans la vie ou bien qui arrivent au monde, c'est pour appeler le monde à la repentance. Parce que malgré tous les appels de l'Éternel Dieu, hein, les gens refusent de se repentir. Maintenant, les jugements arrivent et quand les jugements arrivent, les gens cherchent Dieu. Quand le malheur frappe, les gens ont tendance, nous avons tendance, l'humain a tendance à chercher Dieu. Et quand cette pandémie est arrivée, il y a eu beaucoup de ventes de Bible parce que beaucoup de gens savent que dans la Bible, il a été parlé des épidémies dans les temps de la fin. Il y a aussi la guerre qui arrive, la famine va suivre, la crise économique va suivre. Ce que beaucoup de gens ne voyez pas cet exemple-là, ce qui se passe en Ukraine pourrait se répéter en Asie. Mais oui, on fait aussi de la géopolitique un peu. Pourrait se répéter en Asie. La Chine peut prendre exemple sur la Russie pour prendre Taïwan par la force, pour voir si les États-Unis vont intervenir. Mais oui, il y aura des guerres. Il faut que les pays de ce monde s'affaiblissent pour que l'anti-messie soit une solution miracle. Mettons ça dans la tête. C'est lui qui va apparaître comme un homme de paix. Pour qu'il y ait la paix, il faudra qu'il y ait au préalable des guerres, n'est-ce pas? Pour que quelqu'un puisse instaurer la paix, puisse venir avec des solutions miracles, il faudra qu'il y ait des troubles, non? Des troubles, qu'il y ait des guerres, et lui viendra comme un homme de paix. Il va apparaître comme un homme de paix. Mais il faut que la puissance des pays soit épuisée. Il faut que les pays soient affaiblis. Il n'y a que la guerre ou bien une crise économique qui pourrait mettre les pays à terre. Comme ça, lui vient, il propose ses solutions et tout le monde applaudit, tout le monde l'adore. Il sera le super homme avec doté de pouvoir que l'ennemi de nos âmes va lui conférer. Puisque Satan lui-même va directement administrer cette personne, en tout cas va s'incarner dans cette personne. Donc voilà, et les gens d'écran également, lorsque l'arche de Dieu entra dans écran, les écraniens ont entendu ce qui s'est passé dans les autres villes, Ashdod, Gath, ils ont refusé d'emblée, ils criaient en disant, on a transporté, ils ont crié. Moi, ce que je ne comprends pas, malgré ce que les Philistins eux-mêmes ont dit, ils ont appris ce qui s'était passé en Égypte sur les Égyptiens, mais ils n'ont pas compris. Je ne sais pas, ils n'ont pas appris, ils en ont parlé, mais ils ne l'ont pas intégré. Voilà, ils ne l'ont pas intégré, ils ne sont pas repentis. Je ne comprends pas leur entêtement, leur aveuglement aussi. Hein. Voilà. Ils n'ont pas compris. Hein. Ils savent maintenant que c'est l'Éternel qui est responsable de leur ennui de santé, de leurs problèmes de santé. Ils ont eu connaissance de ce qui s'était passé avec les Égyptiens. Mais malgré cela, peut-être que les Philistins pensaient qu'eux, ils étaient supérieurs aux Égyptiens, ou bien que leur divinité était plus puissante que celle des Égyptiens réunis. Hein? Mais Je pense que ces Philistins n'ont pas voulu s'humilier, n'ont pas voulu baisser pavillon devant l'Éternel Dieu, malgré que l'Éternel a usé de miséricorde envers eux, hein, en commençant par leurs idoles, puisqu'ils avaient foi dans leurs idoles, non? Ils avaient confiance. Et l'Éternel Dieu l'a frappé d'abord, l'a décapité, tué, l'a rendu impotente pour que les Philistins ne viennent pas demander de l'aide, pour leur montrer que c'est lui l'Éternel Dieu. Mes frères et sœurs, mais malgré cela, ces Philistins se sont entêtés. Et malgré tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, les gens s'entêtent. Les gens s'entêtent. Les gens s'entêtent partout. L'évangile est rejeté. L'Éternel Dieu est expulsé, entre guillemets, de tout dans les pays dits démocratiques. Si vous voulez parler de Jésus aujourd'hui, non, hein, on vous agresse. On vous qualifie d'arriéré, on vous qualifie d'extrémiste chrétien, on vous donne tous les noms d'oiseaux, alors que si vous pouvez parler de tout et n'importe quoi, des âneries à la télé ou autre, on va vous applaudir, hein. N'est-ce pas? Tout ce que les gens applaudissent aujourd'hui, c'est tout ce qui est méchant, tout ce qui est obscène, vous voyez, on applaudit. Plus les stars des frères La Chronique, dans leur impudicité et autres, dans leur vie sexuelle débridée, on les applaudit, plus ils sont admirés. C'est ça. C'est comme ça. Plus les gens volent par tous les moyens possibles, ils sont applaudis. Et le mensonge est érigé en vérité. Le mensonge, la désinformation est à son comble. On l'a vu avec cette pandémie, mais avec cette guerre également. La désinformation est devenue une guerre, une arme également. Ça, c'est des parenthèses, hein, mes frères, excusez-moi, mais avec l'actualité que nous avons, donc je fais beaucoup, beaucoup de parenthèses. Hein. Finalement, ces Philistins se sont comportés aussi comme les Égyptiens, puisque les Égyptiens aussi n'ont pas voulu se repentir, n'ont pas voulu reconnaître que l'Éternel seul est Dieu, n'ont pas voulu que Elohim seul a créé ce monde, que ce n'est pas les divinités païennes, d'autant plus que ces divinités, c'est l'humain qui les fabrique, quoi. Je ne comprends pas. C'est ça la puissance d'égarement qui est sur l'humanité, tous ces idolâtres, la puissance d'égarement qui est là. Alors, les gens donc d'Écran n'ont pas voulu garder l'arche de l'Éternel Dieu, parce que la main de l'Éternel s'était de nouveau appesantie sur donc les gens d'Écran. Une terreur mortelle, l'angoisse est à son comble. Mais oui, on le dit même fortement, la main de Dieu s'est appesantie fortement. Et les gens mouraient. Les gens qui ne mouraient pas étaient frappés d'hémorroïdes. Et les cris de la ville montaient jusqu'au ciel. Malgré cela, ce n'était pas des cris de repentance, c'était des cris de douleur, hein? Dans le livre de Révélation, il nous est dit que les gens, au lieu de se repentir, vont plutôt maudire, vont plutôt sortir des jurons contre l'Éternel, contre celui qui détient la clé des événements. Voilà l'Éternel Dieu qui détient la clé des événements, la clé de cette guerre. La clé de la guerre est entre les mains de l'Éternel Dieu. Le roi Asa avait dit dans une prière, dans 2 Chroniques 14, que L'Éternel, c'est toi qui peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Que la victoire t'appartienne, mes frères, appartienne à l'Éternel, mes frères et sœurs. Regardons les événements, ne prenons pas position, ne prenons pas tout est fait pour que les gens prennent position dans cette guerre. Ne prenez pas position, mes frères et sœurs. Regardons à Jésus, à Yeshua qui vient. Il vient sur des nuées, il vient enlever son église. Sanctifions-nous encore davantage. Laissons les choses. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Crions à l'Éternel Dieu et ne crions pas contre lui. Ces Philistins criaient contre l'Éternel Dieu. Même si leur cri était monté jusqu'au ciel, ils criaient contre lui. Ils ne criaient pas à lui. Mes frères et sœurs, eux-mêmes, ils ont vu que c'était l'Éternel Dieu qui était à l'origine de leur malheur, du jugement, de leur problème de santé. Malgré cela, ils ne lui ont pas donné gloire. Ils ont refusé de s'humilier jusqu'à ce que l'arche va être renvoyée donc en Israël. Et ce sera un miracle qui va encore se passer. Oh, l'être humain est vraiment endurci. Vraiment endurci. Parce que malgré tout, malgré les témoignages, ils n'ont pas voulu. De la même manière, il y a des témoins aujourd'hui, il y a des témoignages de guérison, des témoins de conversion, de vie changée, des témoignages même dans le monde. Si même aujourd'hui, des scientifiques renommés ont écrit un livre, font des émissions pour démontrer que Dieu existe, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe, non? Vous ne pensez pas? Alors que jusqu'à maintenant, les milieux scientifiques étaient contre l'idée même d'un Dieu, de l'existence d'un Dieu. Ça a évolué. Ah oui, le monde a un commencement. Avant, ils disaient non, le monde n'a pas de commencement. L'univers a toujours existé. Sans preuve, bien sûr. Hein. Mes frères et sœurs, comprenons dans quelle saison nous sommes, dans quelle période nous sommes. Et si cette étude te parvient maintenant, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard, mes frères et sœurs. Redoublons de vigilance. Regardons à l'Éternel Dieu qui a la main sur les événements qui se passent actuellement en Europe. L'Europe a délaissé Dieu. L'Europe a mis en place des lois scélérates, des lois immondes, des lois qui sont contre la parole de Dieu. Dieu a été expulsé de l'espace européen et de plusieurs villes, en tout cas de l'espace européen. Mais nous aurons le jugement de Dieu sur nous. C'est ça, le jugement de Dieu vient sur l'Europe. Mais l'Éternel Dieu sait distinguer ses enfants. Le jugement n'est pas pour nous. Le jugement est sur les nations. Donc, repentons-nous. La Bible nous dit que le jugement va commencer par la maison de Dieu. Toujours, ça commence par ses enfants. Pour les purifier d'abord. Pour qu'ils ne subissent pas le jugement avec les païens. Paul a dit quelque chose sous l'inspiration du Saint-Esprit intéressante. Nous punirons toute désobéissance lorsque notre obéissance sera complète. Hein? Lorsque notre obéissance sera complète. Voilà, c'est ça au fait. Vous ne pouvez pas juger une désobéissance. Oh. Voilà, c'est ça. 2 Corinthiens 10. 6. 2 Corinthiens. Nous sommes aussi prêts à punir toute désobéissance dès que votre obéissance sera entière. Dès que votre... Je vais voir. Non, dès que... À punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. à punir toute désobéissance lorsque votre désobéissance sera complète. Voilà. Hein? Nous sommes prêts à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. C'est ça. L'Éternel Dieu commence toujours par sa maison, pour purifier sa maison d'abord, avant d'exercer, parce que l'Éternel Dieu est juste. C'est un Dieu de justice. Israël a péché ici, voilà ce qui est arrivé. Parce que les Philistins aussi se trouvent dans la même position. Il a fait juger les Israélites par les Philistins. Il a montré sa miséricorde aux Philistins en leur démontrant sa puissance, en montrant que c'est lui qui est Dieu. Les Philistins ne se sont pas humiliés, n'ont pas cru, et aussi ils ont été punis. Donc voilà ce qui se passe, mes frères et sœurs. Nous devons comprendre cela et voir les événements qui arrivent dans cette optique-là. N'ayons pas peur, regardons à Yeshua qui vient. Lui-même l'a dit, que ces guerres et autres seront le commencement des douleurs. Mais aujourd'hui, nous sommes encore plus avancés dans le commencement des douleurs. Nous avons déjà dépassé le commencement des douleurs. Et nous sommes bien avancés. D'accord? Donc, redoublons de vigilance, veillons et prions, parce que Yeshua arrive, bientôt la trompette va sonner. Comme l'a dit un frère qui a reçu une vision, déjà les trompettes sont à la bouche. Que l'Éternel Dieu nous bénisse et nous garde et nous donne la grâce de continuer à nous sanctifier pour avoir part à l'enlèvement. Amen et Amen.